Radio Okapi.
Attention, le coronavirus revient en force et il faut se protéger en respectant les gestes barrières. L'alerte est lancée par le gouvernement. Il rappelle que la deuxième vague de cette maladie qui frappe les pays occidentaux attaque aussi l'Afrique et la RDC. Des cas d'enlèvement en augmentation dans le territoire d'Uvira au sud Kivu. Le réseau local de protection des civils s'en inquiète. En deux jours seulement, 7 personnes ont été enlevées, dont 5 femmes. Ce réseau interpelle les autorités compétentes. Et puis, Joséphine Kassere-Kamaombi, présidente de la Synergie des femmes unies pour le développement et la paix en territoire de Rutshuru au nord Kivu, est notre invitée. Cette association des femmes est impliquée dans la recherche et le rétablissement de la paix dans cette partie du nord Kivu. D'abord, cette triste nouvelle. La presse congolaise est en deuil. Elle a perdu Joseph Boukar Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, et éditeur du journal L'Éveil. Il est décédé très tôt ce matin, de mardi 17 novembre, à la clinique Galié-Maïssi à Kinshasa. Joël Kadendanga, président de la commission de discipline et d'éthique professionnelle de l'UNPC, qui confirme la nouvelle, affirme que la presse congolaise vient de perdre toute une bibliothèque. Joël Kadendanga, joint par Paul Matendo.
Nous rappelons à cette occasion que les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés. Le port de masques, la distanciation sociale, nos concitoyens doivent prendre compte.
Toutes nos excuses, là vous suiviez plutôt le vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Nous reviendrons à lui dans un instant. Je vous disais tantôt que la presse congolaise est en deuil. Elle a perdu Joseph Boukar Kasonga Chilunde. Écoutez à ce sujet Joël Kadendanga, président de la commission de discipline et d'éthique professionnelle de l'UNPC. Il a été joint par Paul Matendo.
Joseph Boukar, un père responsable. Nous avons travaillé avec lui pendant les 6 dernières années. J'étais président de la commission de formation professionnelle et syndicat de l'UNPC, il était président. C'est un homme qui a travaillé et il a été amoureux de ses amis. C'est un homme qui était souriant et qui savait faire du bien. Très professionnel. En tout cas, nous venons de perdre une bibliothèque. Une bibliothèque qui pouvait nous raconter toutes les péripéties de l'évolution de la presse dans notre pays. Malheureusement, nous venons de le perdre. Je pleure un père, je pleure un conseiller, je pleure un ami.
Père son âme, je vous le disais en titre, la deuxième vague de la pandémie de coronavirus qui frappe de plein fouet l'Occident touche également l'Afrique par le Kenya. En RDC, on observe une augmentation des cas de contamination à cette maladie. Le docteur Jean-Jacques Muyembe, secrétaire technique du comité multisectoriel de riposte au coronavirus en RDC, a fait cette révélation hier à la primature. C'était lors de la séance d'évaluation de la riposte à cette pandémie, séance présidée par le Premier ministre. Cette rencontre a connu la participation de tous les membres du comité multisectoriel de riposte au coronavirus. Face à cette situation, le gouvernement lance un appel urgent à la population. Il invite tout le monde au respect strict des gestes barrières. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Gilbert Kankonde, s'est ainsi exprimé à l'issue de cette réunion. On l'écoute dans cet extrait que nous propose Pele Kipelamondo.
Nous rappelons à cette occasion que les gestes barrières doivent être scrupuleusement respecter le port de masque, la distanciation sociale. Nos concitoyens doivent prendre conscience qu'ils sont le premier responsable de leur propre santé. Ils doivent se protéger. Dans les rassemblements, par exemple, que ce soit dans les lieux de deuil, parce que sans amener les corps dans des salles, nous avons repris nos habitudes de deuil où l'on place des photos de défunts et la famille se rassemble comme d'habitude. Que ce soit dans nos lieux de culte, que ce soit dans nos rassemblements, même des rassemblements publics des genres politiques et autres, nous avons oublié que la maladie Covid, la pandémie, est encore bel et bien là. Que nous puissions nous rappeler ces gestes barrières, que nous puissions les respecter. Dans la semaine qui vient, le gouvernement annoncera des mesures concrètes pour parer à l'éventualité de cette deuxième vague qui fait déjà des dégâts sous d'autres cieux.
Parlons justement des gestes barrières. Au Maniema, il s'observe depuis un certain temps un relâchement des mesures barrières contre le coronavirus dans les écoles primaires et secondaires. Constat du sous-proved urbain de Kasuku, Oano Luhahe appelle les chefs d'établissement au respect sans faille de ces mesures et les parents à acheter les masques pour leurs enfants. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Vous aviez observé comme moi, il y a un relâchement de mesures de protection et au niveau des parents et au niveau de certaines écoles. C'est pour cette raison que je profite de votre micro pour demander aux parents vraiment de revenir aux bonnes habitudes pour la protection de leurs enfants. Parce que nous observons que les enfants viennent sans cache-nez et cela dans beaucoup d'écoles. Alors ici, je dois dire aux parents que la maladie existe bel et bien. Et comme la maladie existe, nous étions à un cas, deuxième cas, troisième cas. Aujourd'hui, nous sommes au cinquième cas. Et comme nous sommes au cinquième cas, ceci voudrait dire que réellement la maladie est là. Nous demandons aux parents d'acheter une fois de plus les cache-nez pour leurs enfants. Parce que l'enfant peut être atteint. Ça ne posera pas trop de problèmes au niveau de l'enfant. Mais l'enfant doit contaminer les parents, doit contaminer les autres. Et les gens qui sont victimes, c'est nous qui avons un âge avancé.
Entre-temps, au Kasaï oriental, les cours sont suspendus dans trois écoles de la ville de Mbujimayi sur décision du ministre provincial de l'EPST en cause des affrontements qui ont opposé pendant trois jours des élèves de l'Institut Union Cop, ceux de l'Institut Moulemba, une école d'application de l'ISP de Mbujimayi, aux étudiants de cet établissement. Le bilan provisoire fait état des blessés graves dans les rangs des élèves et des passants. Le récit d'Esther Ndalafina.
Les cours sont suspendus à l'Institut Nyokop, à l'EDAP Moulemba et au Collège épiscopal Saint-Pierre de Bodiabouakane. Ce mardi matin, d'autres écoles se trouvant dans les environs des établissements frappés par la décision du ministre provincial de l'EPST ont retourné leurs élèves à la maison de peur d'être attaqués par ceux des écoles dont les cours ont été suspendus. D'après des sources sur place, le conflit a éclaté le vendredi dernier lorsqu'un élève de l'Nyokop a piétiné un étudiant de l'Institut supérieur pédagogique. Malgré les excuses de l'élève, il a été malmené par l'étudiant. L'affaire a dégénéré. L'étudiant a été molesté par quelques élèves. Conduit à la police, il a par la suite été relâché. Ce qui n'a pas plu aux étudiants de l'ISP. Le samedi, certains élèves ont perturbé les cours en jetant les projectiles sur la toiture du bâtiment de l'EDAP qui fonctionne dans le même enclos que l'ISP. Un agent de l'ISP a même été blessé. Sorti en expédition punitive, l'étudiant molesté le week-end, accompagné de ses camarades, ont cassé ce lundi les vitres de trois locaux du collège épiscopal Saint-Pierre du Bodiabouakane qui héberge l'Institut Ignocop. Ils ont détruit le bureau du proviseur et incendié les dossiers des élèves. Ceux de l'Ignocop ont détruit une partie du mur de la clôture de l'ISP et incendié la paillote restaurant. Une réunion de crise a été convoquée par le ministre provincial de l'EPST. Pendant ce temps, les éléments de la police sont déployés sur place. L'enquête est ouverte pour déterminer les responsabilités. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Direction le Sud Kivu. Le réseau local de protection des civils tire la sonnette d'alarme sur les cas des kidnappings des civils dans les moyens et hauts plateaux ainsi que dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira. En l'espace de deux jours, sept personnes ont été enlevées, dont cinq femmes. Cela s'est passé dans le groupement de Bijombo le week-end dernier. Le secrétaire exécutif de ce réseau, Yves Ramazani, demande aux autorités civiles et militaires d'initier des mécanismes efficaces de protection des civils en vue de mettre fin à ces actes qu'il qualifie d'ignobles. Yves Ramazani le dit au micro de Fiston Goma.
Depuis le 1er novembre jusqu'aujourd'hui le 16, nous venons de comptabiliser 13 personnes déjà enlevées, dont 3 cas à Fizi et 10 personnes à Uvira. Parlons des derniers cas d'hier, le 15, 2 personnes ont été kidnappées. Ils quittaient Ndunda vers Kimuka, ils étaient à bord d'une moto. Malheureusement, ils ont tombé dans une embuscade tendue par les porteurs d'armes, à plein de la Ruzizi, et emportés dans la brousse. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de traces de ces 2 personnes. Dans le haut plateau d'Uvira, on a aussi enlevé 5 femmes qui vivaient dans le camp de Bijombo, qui partaient à la recherche de nourriture dans les villages de Kangwe. Malheureusement, ils sont tombés dans une embuscade tendue par le présumé Gumino. Ces femmes ont été molestées. Ils ont été libérées le soir du 14 novembre 2020. Selon nos analyses, on a remarqué que c'est une façon de financer leurs groupes armés. Sauf seulement le cas du 14 où les femmes n'ont pas déboursé de l'argent. Mais d'autres cas dans la plaine de la Ruzizi et dans le territoire de Fizi, après l'enlèvement, les bourreaux commencent à demander l'argent auprès des familles de ces victimes enlevées. Vraiment, c'est un problème très sérieux par rapport à la population civile. Il serait en connivence avec certaines personnes dans certains villages.
Vous avez compris que les propos de Yves Ramazani ont été recueillis hier par Fiston Goma. Parlant du 16 novembre, notez que cette date, chaque année, la communauté internationale commémore la journée de la tolérance. À Goma, l'organisation Africa Amani a organisé une journée de réflexion et d'échange à l'intention des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, des autorités militaires et policières, ainsi que des notables de plusieurs communautés de base. Ils ont réfléchi ensemble sur comment promouvoir la tolérance sans laquelle il n'y aura pas de paix ni de développement dans la communauté. Le coordonnateur national de Africa Amani estime que le manque de tolérance entre communautés serait en effet une des causes des crises sécuritaires au Nord Kivu. Kasomo Malamassa, au micro de Mathieu Ilunga.
Ça fait pas deux semaines, vous avez tout suivi avec tristesse que les gens se sont entretués dans le territoire de Routchour et des communautés tribalisme. Et quand il y a des groupes armés qui ont le caractère tribal, c'est-à-dire il n'y a pas la tolérance. Il n'y a pas développement sans la paix et il n'y a pas la paix sans tolérance. Nous avons invité toutes les communautés, leur montrer que nous devons nous tolérer. Nous avons aussi appelé les autorités administratives, les autorités militaires aussi, parce que nous devons promouvoir la tolérance pour arriver à la paix. Mais aussi, il y a les gens qui sont têtus, les tireurs de ficelles, qui en profitent. Même parmi nos élus, des fois, vous venez vers la communauté de base, vous sensibilisez, mais ces tireurs de ficelles viennent détruire ce que vous avez fait. Et nous avons interpellé nos autorités à s'assumer. Nous avons appelé aussi les tireurs de ficelles à leur niveau de cesser de tromper la population. Ils doivent cesser d'envoyer les armes aux enfants des autres, mais ils doivent envoyer le message de paix et le message de la tolérance. Qu'il ne faut pas aussi généraliser les conflits. Quand il y a eu conflit à Routchour, on dit que non, voilà les bananes ont tué les Hutus, voilà les Hutus ont tué les bananes. Mais pensez-vous que c'est toute la communauté Hutu qui s'est mise d'accord pour tuer les autres? Non, c'est pas ça. Donc nous devons nous tolérer et il n'y a pas la paix sans la tolérance.
Dans l'actualité, notez aussi que l'artiste musicienne congolaise Tchala Mwana est toujours détenue dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement à Kinshasa, selon le président de l'ONG ACAJ, Association congolaise pour l'accès à la justice. Bien que promise pour hier soir, la libération de cet artiste, auteur de la chanson Ingratitude, n'a pas eu lieu jusqu'ici. C'est hier, avant midi, que Tchala Mwana a été interpellé par l'ANR. Parlons à présent du programme d'appui à la réforme de la police en RDC. L'Union européenne vient d'allouer un montant de 20 millions d'euros. C'est sur une portée de 5 ans et c'est dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. Ce nouveau programme d'aide européen vise à améliorer la gouvernance, la protection des droits de l'homme ainsi que la lutte contre l'impunité et la corruption en RDC. Explication Jacques-Yves Molima.
Ce programme comprend 4 objectifs spécifiques, l'amélioration de la mise en œuvre de la réforme et de la redevabilité de la police, le renforcement de la professionnalisation de la police et de la chaîne pénale, l'amélioration de la gestion des ressources humaines et rendre enfin opérationnelle la police de proximité pour restaurer la confiance de la population. D'après la commissaire européenne pour le partenariat international, Jutta Urpelen, je le cite, « Il ne peut y avoir de développement et de croissance durable que dans un environnement pacifié. C'est pourquoi l'Union européenne renforce son appui en faveur de la sécurité, de la paix et de la stabilité en RDC. Nous soutenons donc le gouvernement de la RDC dans sa détermination à poursuivre les réformes engagées dans les secteurs de la sécurité, de la défense et de la justice en respectant pleinement les droits de l'homme. » Fin de citation. Toujours d'après ce programme, une attention spéciale sera portée aux questions de genre compte tenu de l'importance de la reconnaissance de l'égalité des droits entre hommes et femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre, y compris les violences sexuelles. Signalons enfin que ce montant porte le soutien total de l'Union européenne à la réforme de la police à 60 millions d'euros.
Par ailleurs, l'insuffisance des effectifs au sein de la police est un problème réel au Congo central. La question préoccupe la société civile locale qui pense que cette carence des policiers est à la base de l'insécurité. Pour sa part, l'inspecteur provincial de la territoriale justifie cette situation par la politique de recrutement qui relève de la compétence des instances nationales. Sabin Sadiboko sollicite un renforcement des effectifs des policiers pour pouvoir enrayer l'activisme des bandits à main armée qui opèrent au Congo central. Nana Plurich Mambo nous en dit plus.
Jules Benga, président du cadre de concertation de la société civile, indique qu'à Matadi, Boma Mwanda ainsi qu'à Songololo, les bagarres des gangs qui se soldent quelquefois par des pertes en vies humaines sont devenues monnaie courante. Même chose pour les incursions des racketeurs armés dans les domiciles des paisibles citoyens. Situation qui lie à l'insuffisance des éléments de la police. Selon lui, les bandits sont tellement nombreux que lors des interventions des services de sécurité, le peu des policiers engagés dans ces opérations n'arrive pas à se tirer d'affaires. Certains quartiers de nos villes sont dépourvus des soucis de la PNC et là où ils sont visibles, les problèmes des effectifs se posent avec acuité. Conséquence, la police ne parvient pas à assurer convenablement la sécurité des personnes et de leurs biens, déplore-t-il. Il ajoute que l'insécurité persiste aussi par le fait qu'à la suite au manque d'effectifs suffisants, la police n'est pas en mesure d'organiser des patrouilles diurnes et nocturnes de manière permanente. Et en cas de problème, les policiers ne savent pas intervenir dans plusieurs endroits au même moment. Sabin Sadiboko lance à cet effet un appel pressant aux autorités compétentes pour qu'un début de solution soit trouvé à ces problèmes. Il plaide aussi pour que les moyens conséquents soient alloués à la police. Des Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
11 ans après sa mort, les restes mortuaires de l'ancien président de Guinée-Bissau et ex-héros de la guerre d'indépendance contre le Portugal, João Bernardo Vieira, dit Nino Vieira, ont été transférés hier au cimetière des martyrs, le Panthéon Bissau-Guinéen. L'inhumation du président Vieira au cimetière des martyrs est cependant loin de faire l'unanimité dans sa famille. Pour certains de ses enfants, les autorités auraient dû d'abord faire toute la lumière sur les circonstances de son assassinat. João Bernardo Vieira a été assassiné le 2 mars 2009 par un groupe des militaires qui dit avoir vengé leur chef, le général Baptiste Atagmé, tué quelques heures auparavant dans un attentat à la bombe.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Joséphine Kassere-Kamaombi de la Synergie des Femmes Unies pour le développement et la paix en territoire de Rutshuru. Cette association des femmes est impliquée dans la recherche et le rétablissement de la paix dans cette partie du Nord Kivu. Ces femmes l'ont fait savoir dans plusieurs recommandations formulées récemment devant une équipe conjointe de l'évaluation de la MONUSCO lors de leur mission officielle à Rutshuru début novembre. Joséphine Kassere-Ka est avec Mathieu Ilunga.
Madame, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Madame Kassere-Ka Maombi Joséphine.
Je suis de la Synergie des Femmes Unies pour le Développement et la Paix et présidente aussi du comité de l'agenda des femmes, paix et sécurité en territoire de Rutshuru.
Madame, s'il vous plaît, il y a une situation qui prévaut dans le territoire de Rutshuru. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, en bref, ce qui se passe au juste?
La situation de Rutshuru est complexe. On ne sait pas comment exprimer. Et nous avions accouché cette recommandation comme les femmes de Rutshuru vis-à-vis à ces atrocités qui se passent ici chez nous. La première recommandation est de renforcer, d'organiser les dialogues sociaux auprès de la population, de la communauté à conflit dans le territoire de Rutshuru. Deuxième recommandation, renforcer les forces de l'ordre dans les communes de Rutshuru et Kiwanja et aux alentours de Kiwanja, là où se passent les atrocités. Et les équiper, bien sûr, puisque même si vous renforcez les militaires sans équipement, c'est tout un problème, il faut les équiper. Quand on a besoin d'eux, il faut qu'ils interviennent à temps. Troisième recommandation, est d'identifier et documenter très bien nos déplacés qui sont à côté de la commune, puisqu'après les analyses avec la base, nous voyons que les camps de déplacés aussi est parmi les causes qui dérangent ici dans la commune. Quatrième recommandation au gouvernement de traquer sitôt les groupes armés installés sur place ici chez nous, de les traquer pour rétablir la paix et bannir le message Hutu Nande devenu comme le message qu'à Rutshuru il y a la guerre tribale entre les Hutus et les Nandes. Ce massacre, cette tuerie dit à la présence de ces milices, de ces groupes qui sont nouvellement installés chez nous.
Quelle milice?
Milice, le SEMC, qui a la connotation de la population, la communauté Hutu. Nous demandons au gouvernement de traquer ces groupes-là pour restaurer encore la paix et la cohésion sociale de la communauté. Sixième recommandation est de renforcer les positions des militaires aux alentours d'Adéchat où nos mamans, nos parents se dirigent pour aller chercher la nourriture. Les positions là où les gouvernements peuvent déployer les militaires pour que nous accédions à nos activités champêtres dans le territoire de Rutshuru. La septième recommandation aux organisations onusiennes de répondre à leur mission restauration de la paix dans le territoire de Rutshuru. Nous demandons leur implication pour la restauration de paix, accompagner le gouvernement, accompagner les autorités locales pour qu'on puisse bannir ce qui se passe ici chez nous. De renforcer, d'accompagner les initiatives des femmes qui se battent nuit et jour à la recherche de paix, venir aussi en aide, capacité, outiller, financer les organisations des femmes pour mieux faire et pour que leur activité soit visible par la population de la commune.
Quel a été l'apport de la femme de Rutshuru dans beaucoup d'événements qui viennent de se passer?
Femme de Rutshuru, nous sommes une structure de plusieurs organisations féminines et nous nous sommes impliqués positivement dans cette affaire et nous avions dénoncé les malfrats qui nous arrivent dans le territoire devant les autorités. Nous participons dans des réunions de sécurité pour donner les contextes sécuritaires de notre territoire. Et nous faisons le plaidoyer aussi devant les autorités et les organisations pour venir en aide. Nous sommes prêtes, nous comme femmes de Rutshuru, d'accompagner le processus de la paix dans notre territoire et montrer à qui nos atouts et ce qu'on peut faire et notre contribution vis-à-vis à la restauration de paix dans le territoire, dans la province et dans notre pays, la République démocratique du Congo.
Je vous remercie.
Merci aussi.
Joséphine Kasereka, présidente du comité de l'agenda des femmes, paix et sécurité en territoire de Rutshuru, s'entretenait avec Mathieu Ilunga. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élise Chikotati, vous êtes à supervision de Pelé Kipela Mondo. Alain Ngoy était à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.